France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Le mot biodiversité fait aujourd'hui partie du langage courant, pourtant il n'a pas toujours existé. Il a fallu en effet attendre 1985 pour qu'il soit forgé sous la plume d'un biologiste américain. À quel besoin répondait la fabrication de ce néologisme? Pourquoi ce concept a-t-il connu un succès aussi important dans les médias et les discours politiques? Et chemin faisant, sa dimension scientifique s'est-elle diluée? Science Chrono se demande aujourd'hui ce que la biodiversité a changé ou pas dans nos représentations du monde vivant et dans les pratiques de protection de la nature. Et pour parler de cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marine Fauché. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur junior en philosophie et épistémologie de la nature au laboratoire Écologie, Société, Évolution à l'Université Paris-Saclay. Et nous serons rejoints dans un instant par Philippe Grandcola, écologue, directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, qui a dirigé l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Philippe Grandcola est également l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels on peut citer « Tout comprendre ou presque à la biodiversité » aux éditions du CNRS et plus récemment « La biodiversité, urgence planète, notre monde vivant en danger expliqué à tous » aux éditions Talendier. Je vous remercie tous les deux, d'abord vous Marine Fauché, puisque Philippe Grandcola va nous rejoindre, d'avoir accepté notre invitation pour parler de la jeune et pourtant déjà foisonnante histoire du concept de biodiversité. Avant d'en dessiner les contours et les enjeux, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous prendrons la direction de l'Alaska et nous parlerons du site de Nunalek, un haut lieu de la culture Yupik, où plusieurs campagnes de fouilles de sauvetage ont été réalisées pour préserver les vestiges du passé d'une société arctique particulièrement affectée par le réchauffement climatique. Nous en parlerons avec la responsable de l'une de ces campagnes de fouilles, Claire Oumar. Mais avant de parler de cette archéologie d'urgence, nous parlerons comme chaque vendredi dans Sciences Chrono d'histoire des sciences. Et aujourd'hui, nous revenons sur la naissance d'un concept, celui de biodiversité. Alors que se tient en ce moment même le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, on s'est dit qu'il était important de remonter à la source du concept de biodiversité et d'en comprendre le sens scientifique, mais aussi de voir comment cette notion avait évolué en 40 ans. Marine Fauché, avant d'être fabriqué, ce concept de biodiversité, il prend racine dans un terreau scientifique et culturel particulier, comme toujours quand on a une notion et un concept. Alors avant de donner la première définition de biodiversité, pouvez-vous nous décrire dans quel cadre il s'inscrit et dans quel cadre il est né?
Oui, tout à fait. Ce terme, il naît en fait dans le cadre de la préparation d'un forum national sur la diversité biologique qui se tient en 1986 à Washington et qui est sponsorisé notamment par l'Académie des sciences américaines. Et qui est un forum très important parce qu'il réunit une soixantaine de scientifiques de premier plan avec vraiment beaucoup de participants, des centaines de participants aux différentes sessions et beaucoup d'échos médiatiques aussi puisqu'il est rediffusé dans la presse à ce moment-là. Mmh. Et donc parmi les personnages en présence à ce forum, qui sont un peu des grands noms effectivement aussi de la biologie de la conservation qui naît dans les mêmes années, il y a notamment Walter Rosen, il y a Michael Souley, il y a Norman Myers, Peter Raven aussi, qui est un botaniste américain, ou encore Edward Wilson. Mmh.
Alors tous ces biologistes-là, effectivement, ils contribuent, Marine Fauché, à concevoir, à forger la première notion de biodiversité. Philippe Grandcola, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entrer dans le studio et j'ai le plaisir de vous poser la deuxième question. Donc, je posais la question à Marine Fauché du contexte, du cadre intellectuel, finalement, dans lequel s'inscrivait la notion de biodiversité. Donc, Marine Fauché a ébauché ce contexte vraiment proche du moment où on a forgé, 85-86. Mais avant ça, j'aimerais peut-être qu'on remonte un petit peu dans le temps. De quoi avait-on besoin, finalement, d'un point de vue conceptuel, pour fabriquer ce mot et cette notion?
Oui, effectivement, les sciences du vivant, elles existent depuis bien longtemps que le concept de biodiversité, et durant les décennies, voire les siècles précédents, en fait, elles ont mis à jour notamment le mécanisme de l'évolution biologique, de comprendre que les espèces ne sont pas immuables, qu'il y a de la diversité même à l'intérieur d'une espèce entre les individus différents, et puis que cette diversité, elle est gérée au niveau génétique, et ça, ce sont des découvertes relativement récentes, donc des découvertes qui s'échelonnent depuis, on va dire, le courant du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et donc, de fait, ça donne à penser une image différente de celle d'une arche de Noé, qui est une représentation culturel classique de la diversité biologique fin 19e, début 20e. On a beaucoup d'espèces différentes, quelque chose qui relève peut-être pour certains encore beaucoup de la création divine. Et puis une accumulation d'espèces pittoresques et assez différentes qu'on donne à voir notamment dans des galeries d'histoire naturelle. Et là, on est au contraire dans une nature qui est dynamique, avec des individus qui sont différents, qui ont des capacités de survie différentes, qui sont capables de transmettre certaines de leurs caractéristiques à leurs descendants. Et puis, dans le même temps, fin 19e, début 20e, on a aussi une naissance de l'écologie scientifique avec la pensée que les espèces sont en lien avec un milieu naturel, qu'elles interagissent les unes avec les autres. Et par exemple, le nom d'écosystème, c'est un mot qui date de grosso modo 1935. Et donc, là encore, en fait, cet autre niveau de la biodiversité, puisqu'il y a finalement trois niveaux d'observation, niveau de l'individu, de l'espèce et de l'écosystème, commence à percer dans les consciences, et ça fait sens assez rapidement. Et de fait, ça s'organise dans la pensée humaine, même si ça ne transcende pas tout de suite, la pensée dans les sociétés humaines. Mais dès le début du XXe siècle, je pense qu'on commence à se rendre compte, et même parfois avec des visions eugénistes ou dramatiques au plan éthique, que le vivant évolue, que c'est pas simplement une collection d'espèces juxtaposées, aussi splendide soit-elle, et puis que ces espèces interagissent, et interagissent de manière très organisée. Un écosystème, c'est pas un tas d'espèces qu'on met au même endroit, comme persistent à le penser certains aménageurs actuellement. Ce sont des espèces qui ont évolué pendant un certain nombre de temps et qui sont capables de nouer des relations, quelquefois de manière très étroite, certains pollinisateurs, certaines plantes, certains champignons, certains arbres, etc.
Alors il y a cette aussi, donc là vous avez bien expliqué le cadre et le temps long finalement qui a permis aux sciences biologiques d'aboutir à ce concept de biodiversité. Il y a aussi une branche qui est particulièrement dynamique en ce début des années 80 aux États-Unis, c'est la branche de la biologie de la conservation. Alors Marine Fauché, quels sont les enjeux de cette discipline? Et puis qu'a des représentants quand même aux États-Unis assez notables comme Rachel Carson, qui sont des scientifiques et en même temps des lanceurs d'alerte sur l'état de santé des espèces vivantes.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que oui, pour aller dans le sens de cette histoire un peu plus longue du contexte avant les années 80, peut-être deux noms qu'on peut mentionner, c'est effectivement ceux d'Aldo Leopold, qui était un forestier américain qui a beaucoup écrit, notamment dans les 40, et qui, dans des vignettes naturalistes qui sont rassemblées dans son almanach d'un comté des sables, a décrit d'une manière à la fois très belle et très vivante, en fait, à la fois la variété des espèces et de leurs liens, avec un souci en fait de leur vulnérabilité. Et c'est un peu les mêmes ingrédients qu'on retrouve sous la plume de Rachel Carson, une même mise en scène finalement de l'ampleur des êtres vivants qu'on trouve sur la planète, mais aussi de la complexité de leurs interactions, de la complexité de ces chaînes trophiques au sein desquelles circule par exemple le pesticide dont elle met en évidence les ravages dans son enquête Printemps silencieux. Donc je dirais ces deux auteurs font apparaître aussi une dimension dans cette complexité du vivant qui est sa vulnérabilité. Et effectivement, à ce moment-là, il y a cet enjeu des extinctions qui commence à être assez massivement documenté. Par rapport à la biologie de la conservation, moi, le nom que j'associe derrière, mais peut-être à tort, parce qu'il y a sans doute beaucoup de noms à mettre, mais c'est celui de Michael Souley, qui a vraiment été un théoricien assez important dans les années 80. Et ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une manière, finalement, c'est l'ouverture d'un nouveau champ qui tient ensemble en fait une dimension descriptive, et ça c'est normal pour une science, il s'agit de documenter la diversité biologique, mais aussi normative. Il s'agit non seulement de la décrire, mais aussi de la protéger, aussi de la conserver. Et du coup, il y a là un régime épistémique un peu particulier qui se met en place, que Souley assume complètement. Il n'est pas seulement question de connaître, mais aussi de résoudre les problèmes finalement de cette diversité biologique dans ce champ-là.
Dans le terme de biologie de la conservation, Philippe Grandcola, moi j'entends conservation. Et conservation, c'est une action qui est un peu spéciale de sauvegarde, de sanctuarisation, même si on se place du côté des États-Unis et de leur pratique longue de la protection de la nature avec une vraie sanctuarisation. Est-ce que les germes de ce concept de biodiversité sont des germes très américains dans ce rapport-là, sanctuarisé à la nature ou bien pas vraiment?
Je pense que ce sont des germes passablement occidentaux, oui. Et pas seulement nord-américains, ce sont des germes dans lesquels on a une pensée de ce qu'on appelle en français la naturalité, la wilderness des anglophones, et qui signale que quelque part dans une version un petit peu judéo-chrétienne, quelque part un peu biblique, que une sorte de jardin d'Éden où la nature sauvage serait intacte et complètement déconnectée des humains. Et évidemment, dans ce tableau-là, les peuples autochtones dérangent hein, et sont évincés des premiers parcs nationaux, comme le parc de Yellowstone aux États-Unis. Et ce monde de l'époque, il est vu d'une manière duale, avec d'un côté la nature sauvage, vierge, hein, donc dans une vision passablement viriliste, hein, et puis de l'autre côté, la nature domestiquée, dans laquelle les humains sont capables de gérer, de produire, etc. Et cette vision-là, bah, elle donne naissance effectivement à une volonté de conserver la nature vierge intacte, ce qui peut sembler quand même malgré tout sous certains aspects éthiquement défendables. Mmh. Et à cette vision bah, se substitue progressivement au cours du XXe siècle une vision plus de gestion de la biodiversité qu'il faut pas voir comme une tentative de réintroduire quelque part voilà l'exploitation, l'extractivisme même au sein des réserves naturelles, hein, mais qu'il faut voir comme une vision un peu moins naïve dans laquelle les humains, y compris évidemment au premier chef les peuples autochtones, font partie des écosystèmes et qui doivent se comporter correctement vis-à-vis de ces écosystèmes, ne serait-ce que pour en percevoir les services qu'ils en attendent de manière durable. Et donc, dans cette perspective de la conservation, bah, c'est vrai que les aires protégées, qui étaient au début une vision idéalisée de la nature sauvage, aujourd'hui deviennent des solutions fondées sur la nature, hein, selon la terminologie employée par pas mal d'instances nationales, internationales, c'est-à-dire des endroits où, finalement, on laisse, soit en libre évolution, soit par un procédé de réensauvagement, la biodiversité se redévelopper, des espèces avoir des améliorations démographiques, des relations entre espèces qui finalement s'auto-régulent, hein, et puis que cette nature même voire déborde des aires protégées et puisse permettre la restauration des aires adjacentes. Donc voilà, la conservation, elle part d'une vision un peu idéaliste, un peu naïve, et puis elle arrive finalement aujourd'hui à une vision un petit peu plus réaliste, hein, on va dire, et tout aussi éthiquement défendable, voire sinon plus, puisqu'elle n'en évince plus les peuples autochtones. Et effectivement, la notion de biodiversité, elle s'est développée sur ce terreau-là, hein, et puis elle a continué à se développer, elle continue à se développer aujourd'hui. Il faut se rappeler, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais que la Convention pour la diversité biologique, donc proclamée en 92, aujourd'hui ratifiée par 196 États, les trois termes de cette convention, c'est conserver, gérer durablement et partager les avantages. Donc là, on est effectivement lié à la connaissance, bien sûr. Donc là, on est effectivement aujourd'hui dans cette problématique. Là, et c'est aussi une problématique qui est traduite au plan juridique, par exemple, dans les règlements européens, hein, directement transposables dans les lois de la République française.
Et on va se poser la question, bien sûr, de si oui ou non la biodiversité a transformé nos relations culturelles au monde vivant. Mais avant ça, Marine Fauché, vous peut-être revenir donc à 85, puis 88, le 18e sommet de la 18e assemblée générale de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature au Costa Rica, qui pose finalement le terme biodiversité. Donc ce terme biodiversité, il est fabriqué, c'est un néologisme hein, complet qui résume en fait diversité biologique, biological diversity en anglais. Quelle est la première définition de biodiversité? Qu'est-ce qu'elle contient de façon très sommaire, on va dire?
Oui, ben en fait c'est une bonne question et c'est pas évident d'avoir la réponse à cette question parce que donc on a souvent et on le fait encore on attribue ce terme à Walter Rosen donc qui était un physiologiste végétal américain. Bon, c'est en partie vrai, mais en fait j'ai consulté un article assez récent de Saotra Sarkar qui est un philosophe de l'environnement américain qui date de 2021 qui s'est repenché sur cette question et qui a montré en s'entretenant avec différents biologistes de l'époque qu'en fait le mot était vraiment présent dans les discussions informelles et donc qu'il n'a pas vraiment de paternité individuelle. Mm-hmm. Parmi les personnes qui l'emploient, il y a notamment Laura Tangley qui était au National Wildlife ou Robert Peters. En 85, donc avant que Rosen l'introduise vraiment par écrit officiellement. Du coup, pour les premières définitions, il y en a énormément. Quelqu'un qui les a rassemblées, c'est David Takacs, hein, qui est un historien de l'environnement à la lisière avec les sciences de la conservation, on va dire. Moi, j'aime assez celle d'Edward Wilson, qui dit que c'est la variété de la vie à tous ses niveaux d'organisation, avec effectivement les trois niveaux que Philippe Grancola a rappelés, hein, qui figurent dans la Convention sur la diversité biologique. Donc, prioritairement, le niveau génétique, diversité des allèles dans une population d'individus, niveau spécifique, variété des espèces entre elles, et puis variété des écosystèmes. Après, on peut en rajouter d'autres, diversité entre des populations, entre des paysages qui sont des mosaïques d'écosystèmes, etc. Mais donc, les premières définitions comportent en fait une part de différence entre elles, déjà. Mmh. Elles ont déjà une diversité entre définitions, on pourrait dire.
Philippe Grand-Collas, sur cette première diversité, première diversité de la notion de biodiversité, puisque c'est une notion qui est foisonnante, je le disais en introduction de cette émission, que peut-on dire? Est-ce qu'il faut vraiment, comme le disait à l'instant Marine Fauché, pas trop s'embarrasser et garder vraiment en tête qu'il y a cette notion de trois grands piliers, la diversité intraspécifique, spécifique et supraspécifique.
Effectivement, en fait, ce sont des objets du commun, des humains, et donc les désigner ainsi, ça permet d'expliciter la notion, hein, qui effectivement peut être déclinée de manière plus précise. Ce qui est important, et les biologistes le savent depuis le début, quand même pratiquement le milieu du XXe siècle, on va dire, hein, donc avant même que ce terme n'émerge dans des usages communs, c'est de comprendre que l'espèce n'est pas une entité fermée, hein, que les individus ne sont pas semblables et immuables, que c'est un réseau de reproduction entre des individus relativement apparentés, c'est-à-dire descendants d'un même ancêtre commun, avec des exceptions. Hein, voilà, dans des espèces européennes de plantes ou d'oiseaux, on peut avoir des fois jusqu'à un quart des individus qui portent des traces d'hybridation. Hein, nous-mêmes, les humains, nous portons en notre sein des traces d'hybridation avec les Néandertaliens ou les Denisoviens. Et donc, il ne faut pas voir les espèces comme complètement homogènes. Et donc, la diversité du coup des allèles ou des individus, elle a un sens particulier, et notamment par rapport au processus d'adaptation dans le milieu naturel. Il y a des individus qui vont avoir des capacités confrontées à certaines conditions momentanées de survivre et de se reproduire de manière plus abondante, ce qui amène effectivement à ce que les espèces finalement se transforment, hein, et au phénomène de l'évolution biologique. De la même manière, la différence entre le niveau des espèces, le niveau des écosystèmes, elle n'est pas non plus, c'est pas une frontière étanche. Les espèces dont les individus peuvent se comporter légèrement différemment peuvent interagir aussi de manière légèrement différente dans les écosystèmes. Ça peut donner prise à l'évolution. Hein, c'est la raison pour laquelle les interactions ne sont pas aléatoires entre les espèces. Et donc, au final, ce sont trois niveaux qu'on peut signaler à l'attention des auditeurs, à l'attention de toutes les personnes dans nos sociétés, hein, gènes, espèces, écosystèmes. Mais ce sont des niveaux qui sont poreux entre eux. Et c'est, à mon avis, la meilleure raison pour laquelle on doit adopter le concept de diversité biologique. Parce que sinon, on en reste à dire qu'on a beaucoup ou pas beaucoup d'espèces. Où on peut étudier leurs relations de parenté, leurs caractéristiques, mais ça suffirait. Là, en réalité, ce concept, ce qu'il a d'important, et à travers les définitions que ma collègue a mentionnées, on revoit cette porosité entre les trois niveaux, et ça aide à comprendre pour les décideurs, pour les citoyens, pour les entrepreneurs, pour les collectivités, pour les élus, ça les aide à comprendre qu'on n'est pas face à une collection d'espèces qu'il faudrait certes conserver pour des raisons éthiques ou fonctionnelles, mais qu'on est face à quelque chose de mouvement, hein, qu'on essaye d'attraper par des dénominations d'espèces, par le séquençage des génomes ou par l'étude des interactions, et qu'on doit en fait considérer cet ensemble mouvant, dynamique, hein, évolutif, comme une réalité scientifique.
Alors cette notion de biodiversité, cette notion très scientifique, comme on vient de la présenter en 1992, elle est au cœur des discussions d'un sommet historique, le sommet de la Terre de Rio. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, le concept de biodiversité sort de la sphère scientifique pour entrer dans les discussions, dans les débats publics. Et j'aimerais vous faire entendre un extrait de l'émission « La science et les hommes » sur France Culture. C'était le 1er janvier 1993. Le philosophe Pierre Thuillier posait la question du sens de la biodiversité au biologiste Armand Duriclès. Et c'est l'archive de Science Chrono.
Le mot biodiversité, qui je pense est compris par les gens dans une perspective vaguement écologique, la vie est riche, il faut préserver, connaître et préserver cette diversité, aurait été forgé dans une perspective stratégique pour valoriser, en fait, enfin pour maintenir en vie les gens qui classent les crustacés, et c'est-à-dire pour redonner une base, si j'ose dire, culturelle à des disciplines qui étaient plus ou moins menacées. C'est-à-dire que les gens C'est le côté positif. Ils vont accepter la biodiversité comme désignant une sorte de notion un petit peu mythique, enfin, et très attrayante. Mais derrière, ça aurait été vraiment les naturalistes voulant attirer sur la nécessité de bien connaître sur le terrain, dans la tradition naturaliste, les différentes espèces.
À mon avis, des termes comme les termes de zoologie et de botaniste ne sont littéralement pas vendables à l'heure actuelle, pour des raisons X qui sont des raisons culturelles. Et un certain nombre de domaines... il faut continuer à les étudier, nous ne pouvons pas nous en passer si on veut que toutes les sciences du type environnemental se développent. Alors, je pense que ce terme de biodiversité a fait florès, il a été repris au bon par les politiques, il passe la rampe. À mon avis, c'est ça le problème, et c'est de ce point de vue-là que le terme... s'est développé au cours des dernières années.
Je vous remercie de votre franchise, parce que c'est intéressant de voir que vous-même, qui êtes un naturaliste, vous disiez la botanique, la zoologie, c'est quelque chose qui ne séduit plus, qui ne séduit pas, et que
je
la notion...
Je ne dis pas que ça ne séduit pas, je dis que ça ne séduit pas les organismes susceptibles...
De donner des financements.
Voilà.
Bon.
Bon, Marine Fauché, là, on a un peu une passe d'armes, voilà, mais qui est intéressante, parce que dans ce que dit Pierre Tullier, il y a un reproche que feront les climato-sceptiques aux climatologues, c'est de dire, en gros, vous inventez des termes et des angoisses, là où il n'y a pas lieu d'avoir des angoisses, mais pour défendre vos financements. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent quand on parle de défense de l'environnement, de défense de la nature. Est-ce que c'est le premier coup porté, finalement, au sens scientifique de biodiversité, ce genre d'attaque-là ?
Oui, mais l'argument de Pierre Tullier est intéressant. C'est intéressant d'entendre ces archives un peu anciennes. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Il y a une part de vrai dans ce qu'il dit. Il y a une manière de reformuler des concepts pour les faire coller au goût du jour. Je pense que ça reflète aussi une évolution véritable des recherches, parce qu'à nouveau, ce terme-là, c'est pas tout à fait l'équivalent de botanique ou zoologie ou même de la taxonomie que Tullier dénonce quand il parle des gens qui classent les crustacés, comme il le dit aimablement. En fait, il y a quand même vraiment, dans le terme de biodiversité, une alerte qui est insérée. Ça désigne quelque chose qui est vulnérable. Donc là, ce qu'il s'agit de documenter, c'est pas les espèces en tant que telles, mais en tant qu'elles sont menacées, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau dans cet objet-là, je dirais.
Philippe Grand-Collat, sur cette archive-là, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce propos ?
Alors, j'ai le plaisir d'entendre à nouveau mon collègue Armand Riclès, avec lequel j'ai eu quand même pas mal d'échanges quand il était professeur au Collège de France il y a pas mal d'années. Et je pense que c'est effectivement on a une vision dans laquelle, malheureusement, il y a une vision un peu diachronique, avec cette accusation un peu naïve qui date, on va dire, déjà de quelques années, dans laquelle les mots nouveaux seraient des mots politiques ou à destination des financeurs et n'auraient pas de contenu scientifique. Et on voit s'affronter là, finalement, les reliquats d'une vision de la biodiversité pré-évolutionniste qui date encore de la fin du 19e siècle, parce qu'il faut se rappeler que la théorie de l'évolution, elle a quand même eu un petit peu de mal à s'imposer dans l'ensemble de la communauté scientifique et de la société, et dans lesquelles, effectivement, la description des espèces et l'organisation en classification a été une activité purement formel, mais sans nécessaire référence à l'évolution. Et donc, en ce sens, la zoologie, la botanique, et j'en sais quelque chose puisque j'étais responsable du laboratoire de systématique du Muséum de Sorbonne-Université, du CNRS et l'École pratique des hautes études, qui comporte 200 systématiciens, c'est une vision qui est pré-évolutionniste, et on accuse à tort les systématiciens aujourd'hui de continuer à persister dans cette vision simplement organisatrice, alors qu'aujourd'hui, en fait, la zoologie, la botanique, elles sont devenues des sciences de l'évolution et elles permettent de comprendre, par comparaison entre les organismes, leurs gènes, leur morphologie, elles permettent de comprendre comment ils évoluent à toutes les échelles, depuis des grands groupes d'organismes jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur des populations. Et donc, Armand Riclès, lui, était par contre porteur de cette vision moderne. Et en ce sens, oui, le terme biodiversité, je pense aujourd'hui à cette valeur qui nous permet d'échapper à ces catégories étanches qui étaient finalement pré-évolutionnistes pour les espèces. Et puis... encore relativement cloisonné en ce qui concerne les différents génétiques entre individus ou les écosystèmes au début du XXe siècle. Donc c'est aussi, moi c'est ce que je disais juste avant, c'est une grande vertu du terme de biodiversité d'arriver à faire comprendre qu'on ne doit pas réifier des entités qui n'existent pas vraiment. Si vous regardez par la fenêtre de votre bureau ou de votre maison, vous n'allez pas voir une espèce, vous allez voir des individus, et encore, vous allez voir ce que votre vos sens perçoivent comme des individus. L'espèce est un réseau de reproduction qu'on peut étudier à travers le temps, et en ce sens, il est important de comprendre qu'entre individus, espèces, écosystèmes, il n'y a pas de frontière absolument nette au plan conceptuel, et c'est aussi un des grands enjeux de faire comprendre ça aux gestionnaires, aux citoyens, aux scientifiques, et c'est en cela aussi que la notion de biodiversité a réellement apporté quelque chose. Et là, on se détache effectivement vraiment de la pensée pré-évolutionniste des grands naturalistes, qui avaient ses vertus, bien entendu, au 18e, au 19e siècle, mais qui aujourd'hui, au plan scientifique, doit évoluer, tout comme les organismes.
C'est une question que je voulais vous poser à tous les deux, et c'est une question teintée d'une forme d'inquiétude, mais est-ce que ce terme biodiversité, d'une certaine façon, avec la popularité qu'on lui connaît, popularité dans les discours politiques, dans les discours médiatiques, voilà, le mot biodiversité, il est inconnu de peu de gens, finalement, aujourd'hui, mais est-ce que cette popularisation du terme, finalement, lui a fait perdre son sens premier, lui a fait perdre son sens scientifique et a dilué finalement ses objectifs scientifiques qui étaient contenus dans le concept de biodiversité, Marine Fauché.
C'est une question vaste, en deux éléments, je pense qu'effectivement dans le discours médiatique ou dans certains usages qui en sont faits, c'est un mot qui couvre parfois des politiques qui n'ont pas forcément de valeur pour la diversité biologique. Enfin, je pense à des choix de végétalisation ou de revégétalisation qui sont pas forcément, pas toujours pertinents du point de vue du choix des espèces, par exemple, qu'on va utiliser. Donc, il y a une sorte de valeur un petit peu générique qu'il a pris dans un discours public où il recouvre pas exactement les mêmes enjeux. Ça, c'est la première chose. Et après, je suis sensible à ce que disait Philippe Rancola par rapport à l'intérêt, en fait, de la complexité que le terme comprend. Mais je pense qu'il y avait aussi une sorte de flou scientifique dans ce concept d'entrée de jeu, en fait, que plusieurs épistémologues ont mis en avant, notamment parce qu'il y a des définitions qui parlent de la biodiversité comme un ensemble d'entités, avec en plus cette dimension évolutive que vous avez soulignée. Il y en a d'autres qui incluent aussi les relations entre les termes. Il y en a qui font de cette biodiversité la somme des différences. Il y en a qui la font correspondre aussi à l'idée d'écologie. Donc, en fait, il y a une sorte de densité conceptuelle qui est un peu trop grande pour et qui du coup affecte la précision du terme.
Qui peut porter une forme de confusion du coup.
Exactement, voilà. Et c'est un peu ce que disait d'ailleurs Walter Rosen quand il revenait sur le néologisme qu'il pensait être le seul à avoir forgé, enfin en tout cas qu'on lui attribue, c'est qu'il disait c'est facile pour créer le terme, j'ai juste enlevé logical. Et en fait enlever cette partie logical a un peu affaibli effectivement la dimension scientifique du terme. Ouais.
Philippe Grandcola, on approche du terme déjà de notre discussion sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis finalement, si dilution il y a eu, quel chemin reste-t-il à parcourir à la biodiversité pour reconquérir cette dimension scientifique? C'est votre rôle aussi à vous, j'imagine.
Bien sûr. Je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est de modifier nos représentations culturelles au sein des sociétés. Pour bâtir un monde durable, évidemment, on dépend à 100%, et pas pour quelques pourcents de nos PIB, on dépend pour chaque instant de notre existence du vivant. Nous sommes vivants, nous sommes des primates qui avons évolué à partir d'autres primates. Nous avons un microbiote constitué de 2 kilos de bactéries, nous vêtissons de biodiversité, nous mangeons de la biodiversité, notre climat est régulé par la biodiversité, donc il ne s'agit pas seulement de préserver l'Amazonie ou les récifs coralliens, il faut vivre dans un monde durable dans lequel la biodiversité gère l'essentiel de notre vie. Et ça, pour que les gouvernants, les entreprises, les citoyens, tout un chacun s'en rende compte, il faut qu'on prenne conscience de ce que c'est que la biodiversité et de la manière dont on peut essayer de gérer au mieux sa dynamique. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en comprenant que les espèces ne sont pas des ensembles étanches, que la diversité génétique doit être préservée, y compris par exemple chez des espèces domestiquées, qu'on élève, qu'on cultive, et puis que les écosystèmes ne sont pas des entassements d'espèces et qu'on ne peut pas, par exemple, compenser des destructions en plantant au cordeau des épicéas ou des pins douglas, ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu de connaissance, de représentation culturelle, et puis après, évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner ce que certains appellent le backlash écologique de ces derniers mois, dernières années, dans lequel finalement on voit que le mot biodiversité, certains ont compris, se le sont approprié, donc il figure maintenant au programme d'un certain nombre de partis politiques où il représente des enjeux importants pour des structures ou des institutions, et de fait, il y a d'autres personnes qui ne s'en sont pas saisies à temps ou qui ne comprennent toujours pas l'intérêt de ce terme, qui vont finalement lutter contre ces éléments qui sont intégrés dans les politiques publiques ou entrepreneuriales, qui vont lutter et qui vont finalement dénier à la biodiversité son intérêt. Et aujourd'hui, ça devient effectivement un clivage politique auquel le terme biodiversité participe. Et c'est évidemment regrettable quand on pense aux enjeux qu'on a de durabilité de nos sociétés.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Marine Fauché et Philippe Grandcola, d'être venus nous raconter cette jeune et pourtant déjà si dense histoire de la biodiversité.
last time that I saw you, you had me housed up on your red, red room. Stranded in the housing of our moving house, and we were gonna hit every port and every Cape Town. We were gonna give a full report of sorts to your mother up in Cabo and her new cohort. Damn, can't believe your father left his land, the creek, to cry.
Alaskans par Volcano Choir dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé de l'histoire de la biodiversité, il est l'heure de parler d'une archéologie en temps d'urgence climatique. On part en Alaska.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La crise climatique ne menace pas que notre présent et notre futur, elle fait aussi courir de graves risques de disparition aux vestiges des cultures passées. C'est le cas pour le patrimoine matériel des Yupits qui habitent la moitié sud de la côte ouest de l'Alaska. Sur ce territoire frappé par la fonte du pergélisol et par l'érosion du littoral, une archéologie de l'urgence est à l'œuvre pour préserver un patrimoine menacé et sauver les vestiges du temps long dans un contre-la-montre forcé. En quelques années de fouilles sur le site que nous allons explorer aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 objets qui ont été découverts par les archéologues. Des objets qui témoignent d'une culture matérielle sans écriture en partie disparue en raison de la colonisation, mais que les populations locales cherchent aujourd'hui à se réapproprier. Ce site fouillé par notre invité, c'est le site de Nunalek, qui nous raconte la vie quotidienne du peuple Yupik, mais aussi ses rites et les guerres qui ont bouleversé son histoire. Claire Oumar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur junior rattaché à l'université Marie et Louis Pasteur, et vous êtes responsable de la mission de fouilles Yupik qui s'est déroulée de 2022 à 2025 sur le site de Nunalek. Nunalek. Ouais, comme ça, ce sera plus confortable. Une mission donc en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Et vous avez récemment co-signé avec Charlotte Fauve aux éditions du Seuil le livre Alaska, l'usure du monde. Merci beaucoup de venir nous parler aujourd'hui de vos travaux sur ce site qui est le seul permettant de documenter la période pré-contact, comme on le dit, entre les Yupits et les populations occidentales. Alors, pour débuter notre entretien archéologique, Claire Oumar, j'aimerais planter un décor, celui de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez quand vous allez en Alaska, sur le site de Nunalek, qui veut dire littéralement le vieux village en langue Yupik, et qui se situe non loin du village de Quinahock. Yes. Bon, pas mal. presque bon. Alors, dans quel paysage bien particulier vous travaillez quand vous allez là-bas?
Oui, tout à fait. C'est contrairement à l'image qu'on a souvent de l'Alaska, qui est montagneuse et pleine de forêts et autres. À Quinahock et dans ce delta du Yukon-Kuskokwim, tout est plat, marécageux. Et quand on arrive par avion, finalement, on voit quasiment que du vert et du bleu, des méandres et des lacs qui se succèdent les uns aux autres. Donc évidemment, paysage d'été. Et en hiver, tout est à peu près recouvert de neige, même s'il y en a de moins en moins.
On est en région arctique. Qu'est-ce que ça signifie, cette latitude, pour la conservation des vestiges? Alors, il n'y a pas que la latitude et la température, mais aussi les sols. Les vestiges sont conservés d'une façon très particulière dans ce genre de région.
Oui, tout est gelé en dessous de 25 cm, globalement. Quand les hivers sont frais et les printemps frais, on est même gelé un peu au-dessus. Et quand il fait un peu plus chaud, on est plutôt sur des sols gelés à partir de 30-40 cm. Mais globalement, on est dans une archéologie où les vestiges sont quasiment dans l'état dans lequel ils ont été laissés, finalement.
Ça fait qu'on va retrouver des vestiges qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs, du bois, du cuir, voire même des cheveux.
Des cheveux, de la vannerie. Il y a beaucoup de travail de vannerie qui est aussi effectué par ces populations-là et qu'on retrouve sur le site.
Donc tous ces déchets organiques finalement qui ne sont pas attaqués par des bactéries, par des champignons qui pour le coup sont moins présents dans ces sols, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors après, ils sont quand même assez abîmés sur les premiers centimètres parce qu'ils subissent ces effets de gel-dégel. Mais plus on va dans les niveaux profonds et mieux ils sont préservés.
Alors, je parlais dans l'introduction de cette émission des Yupits, le peuple Yupik. Les Yupits, c'est au pluriel, les Yupik, c'est au singulier. Qui sont les Yupits?
C'est un peuple essentiellement chasseur-pêcheur, collecteur aussi de baies pendant l'été, qui a développé une technologie tout à fait adaptée à ces climats froids, avec un cycle saisonnier aussi dans la subsistance. L'hiver, ils vont plutôt le passer à chasser le phoque sur la banquise. De temps en temps, ils ont accès à d'autres espèces comme le morse ou les cétacés, mais pas trop dans ce delta-là parce que les niveaux ne sont pas assez profonds pour permettre aux cétacés de se déplacer. Au printemps, ils vont essentiellement se tourner vers les espèces migratrices, et notamment les espèces d'oiseaux, qui vont leur servir de transition, de nourriture de transition, avant l'arrivée des saumons, qui est vraiment la nourriture symbolique, emblématique, et à la base de leur subsistance, encore aujourd'hui. Mmh. Et après, quand l'été est passé, que les saumons ont frayé et sont repartis, ils vont se tourner vers la chasse aux caribous.
Je disais tout à l'heure que le peuple Yupik n'avait pas d'écriture avant le contact avec les Occidentaux. Alors, quels moyens on a d'accéder à ce passé pré-contact, comme on dit ?
Alors, ce qui est vraiment impressionnant dans ces populations-là, même encore actuellement, c'est l'héritage de la tradition orale. Et cette tradition orale, on la ressent même chez les plus jeunes qui sont encore capables de nous raconter des histoires, alors que finalement, nous, on est mieux placés pour les écouter que pour les raconter. On ne sait plus trop bien les raconter. Mmh.
Est-ce que vous pourriez nous donner, pour qu'on ait une idée donc, de la temporalité dans laquelle on va s'inscrire aujourd'hui, le moment justement de ce contact avec les Occidentaux, il intervient quand pour les Yupites ?
Ça dépend des endroits, mais pour ce site précis de Quinaoc, disons du village de Quinaoc et le site de Nunalek, a priori, on n'est que dans des occupations pré-contact, parce qu'on n'a pas de traces d'objets d'échange commerciaux avec les Européens ou les Occidentaux, plus généralement, d'abord avec les Russes, et puis à partir du moment où l'Alaska est vendue aux Américains en 1868, avec les Anglo-Américains. Ces objets de commerce, la plupart du temps, c'est des pipes, des perles, des denrées alimentaires, des textiles, et ça, on n'en retrouve pas du tout à Nunalek. On retrouve un peu de métal, donc ça signe quand même des échanges à longue distance, probablement avec l'Extrême-Orient asiatique, pour se procurer ce métal, avec évidemment plein d'intermédiaires, mais pas de contact direct avec ces arrivants étrangers, finalement.
On en vient à ce site de Nunalek, où vous travaillez régulièrement, où vous avez conduit plusieurs campagnes de fouilles. Quelle est la temporalité de son occupation et quels sont finalement les siècles auxquels il a été habité par les Yupites ?
On va dire qu'il a été abandonné à la fin du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, probablement 1675. Avec au moins trois phases d'occupation distinctes qu'on aurait tendance à placer autour d'une temporalité de 200 ans et potentiellement des occupations plus anciennes mais qu'on n'a pas vraiment pu matériellement bien observer qui remonteraient peut-être jusqu'au XIIIe, XVe siècle.
Alors cette région du monde, elle n'est pas comme la Rome antique, elle n'est pas balisée et connue comme leur poche par tous les archéologues. En 2007, les premiers archéologues sont arrivés à Nunalek. À quelles demandes répondaient-ils des populations locales ?
C'est en fait, pour le coup, le village et en particulier Warren Jones qui a contacté Rick Knecht, qui est l'archéologue historique qui a monté ce projet, qui ensuite a pris de l'ampleur et est devenu international. Et son inquiétude, c'était que tous ces vestiges disparaissent avec l'érosion côtière et qu'il ne reste plus de traces de ce patrimoine pour ses petits-enfants et les générations futures. Et il a mis 2 ans avant d'arriver à convaincre le conseil des aînés pour qu'une fouille de sauvetage puisse avoir lieu, ce qui était le cas entre 2009 et 2010, avant que des financements plus importants interviennent et permettent une fouille plus programmée de plus grande ampleur.
2 ans pour convaincre le Conseil des aînés. Quel débat justement suscitait la présence des archéologues pour les populations Yupites ?
Dans toutes ces régions-là, on est vraiment dans une archéologie vivante finalement et on fouille des sites des ancêtres de ces habitants de Quinaoc. Et d'après les aînés, il faut laisser ces ancêtres tranquilles. Et même en fouillant sur le site, il faut continuer à respecter ses ancêtres. Leurs âmes sont encore présentes et il ne faut pas les brusquer. Les fouilleurs, les bénévoles locaux du village de Quinoag qui venaient avec nous pour nous aider étaient sensibles à ces questions-là. Et l'année 2024, où il y avait tout un groupe de nouveaux fouilleurs américains qui n'avaient jamais trop mis les pieds à Quinoag, certains d'entre eux avaient commencé à mettre la musique sur le site et Rick les a arrêtés tout de suite en leur disant non. Ici, c'est pas possible.
C'est pas un espace de divertissement.
Exactement.
Et c'est pas qu'un espace de travail non plus. Et ça, c'est important de souligner cet aspect, cette inclusion finalement des traditions et des populations locales dans ce travail archéologique du présent, comme vous le disiez, Claire Houmard. En 2009-2010, donc, la première campagne de fouilles a été conduite sur place. Qu'est-ce qui a été trouvé en premier? Quels ont été les premiers vestiges mis au jour?
Alors, il y a eu d'autres vestiges trouvés avant, parce que justement, comme le site était déjà largement entamé par les tempêtes, on retrouvait des vestiges sur la plage, et notamment des masques et des belles pièces. Et ce qu'on a retrouvé de plus intéressant en faisant une fouille un petit peu plus extensive, c'est justement l'organisation de ces maisons. Donc des maisons en tourbe avec des murs de tourbe reliés par des chemins de planches et a priori des maisons qui étaient occupées à peu près à l'année.
Des maisons qui étaient occupées à l'année dans des climats qui varient quand même assez fortement avec des hivers très froids, des étés plus chauds. Quelle structure, quelle architecture ont du coup ces habitations-là?
Alors souvent pour l'hiver, il y a une sorte de sas qui permet de rentrer dans les maisons en sous-sol, justement pour avoir une température progressivement plus chaude à l'intérieur et pour ne pas trop subir les effets du froid. Alors que l'été, on va plutôt chercher justement à s'exposer un petit peu au vent pour chasser tous les insectes nuisibles de type mouches et moustiques qui nous embêtent et qui les ont sûrement embêtés aussi à l'époque.
Oui, sans doute pas mal. On oublie que ces endroits qui peuvent sembler très très beaux sont soumis à la présence de nuées, de moustiques. Ce qu'il faut dire, Claire Houmard aussi, c'est que le site qui a été fouillé pendant cette campagne de 2009-2010, aujourd'hui, n'existe plus. Il a été détruit par la mer.
Voilà, c'était à peu près 30 à 40 mètres carrés qui ont été fouillés en urgence et qui n'existent plus.
Depuis, quelles autres campagnes de fouilles successives se sont succédées, si je me répète?
Le plus important des travaux archéologiques a eu lieu entre 2013 et 2018, parce que justement, Rick Knecht a été embauché à l'université d'Aberdeen et a obtenu un gros financement de la part de la HRC qui leur a permis de venir avec des moyens conséquents, de pouvoir aussi aider le village et de s'atteler à la fouille. Et là, à peu près 400 mètres carrés ont été fouillés en 5 ans. Et ensuite, c'est les années Covid qui ont largement freiner le projet ainsi que la fin de ces subventions.
Entre 2013 et 2018, puis les campagnes que vous avez conduites entre 2022 et 2025, ce sont plus de 100 000 objets qui ont été retrouvés sur ce site, sur le seul site de Nunalek, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est colossal.
400 ou 500 mètres carrés.
Ce qui est colossal, cette présence d'objets. Comment on explique cette omniprésence d'objets? À nouveau, c'est parce qu'il y a des conditions de conservation qui sont parfaites?
Oui, et puis de manière générale, les sociétés arctiques, c'est un peu aussi des sociétés gadgets. C'est-à-dire que en général, un objet va avoir une fonction. Il peut avoir été réutilisé ou de manière opportuniste utilisé pour quelque chose d'autre, mais globalement, chaque objet a sa fonction, avec des fonctions multiples qui, nous, parfois, nous échappent complètement. Et c'est justement aussi au contact de ces aînés dans les villages qu'on a parfois des réponses à nos questions sur des objets qui nous paraissent complètement énigmatiques.
Donc, on va pas décrire un à un chacun de ces plus de 100 000 objets, mais quelle grande famille d'objets on retrouve à Nunalek en Alaska?
Je pense que ceux qui marquent le plus et que tout le monde a envie de trouver quand ils arrivent à Nunalek, c'est les masques, évidemment, qui ont à la fois cette qualité esthétique et puis cette portée symbolique qui est importante, avec aussi beaucoup de ce qu'on appelle des mask attachments, parce que les masques avaient une partie centrale qui était positionnée sur le visage du danseur, souvent dans des pratiques chamaniques, mais aussi tout un lot de petits symboles qui pouvaient être des kayaks miniatures, des parties anatomiques de certains animaux, ou des plumes, ou des choses qui étaient représentées souvent sous forme de cercle, qui étaient aussi associées à ces masques. Des petites figurines humaines, souvent trouvées sous forme de bâtonnets, des bols, des visières, des fragments d'embarcation, de kayak, des couteaux pour les femmes, pour les hommes, des pointes de flèches évidemment, puisqu'on est en plein dans une période de conflit armé, les guerres des arcs et de la flèche. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tous les objets de production d'objets qui, notamment, tournaient vers cet artisanat de la vannerie, qui ne demande pas tant d'objets que ça, ou du bois. Du bois flotté.
Alors, voilà, le bois flotté, puisqu'on le disait, l'Alaska, dans cet endroit-là, c'est de la toundra, il n'y a pas d'arbres, c'est des paysages très rares. D'où vient ce bois flotté, alors ?
Ce bois flotté, il est apporté sur les plages, c'est un petit peu comme si c'était un don de la nature, par les courants marins. Et ce sont des troncs entiers qui vont suivre les grands fleuves, en l'occurrence le Yukon et le Kuskokwim, pour ceux qui alimentent le plus les plages autour du delta. Donc des troncs qui tombent, des arbres entiers au départ, mais des troncs qui tombent dans les fleuves au moment de la débâcle, donc au moment de la fonte des glaces, au printemps, et qui viennent ensuite s'échouer sur les plages alaskaines.
J'aimerais qu'on revienne, Claire Oumar, sur ces masques, parce que on les trouve bien sûr dans des fonctions rituelles. Alors, c'est des masques qui ont d'un côté, un peu comme les masques de théâtre grec, finalement, soit des sourires, soit des grimaces, à l'envers et au revers pour certains d'entre eux.
Ça, c'est plutôt les petits bâtonnets, les petites figurines.
D'accord.
Les masques en tant que tels, c'est plutôt des masques qui étaient portés, donc avec une partie convexe, une partie concave, et des masques qui souvent sont mi-humains, mi-animaux.
Mmh. Et parfois, on retrouve ces masques aussi dans des trous de poteaux. Donc, que signifie cette présence-là de masques à des endroits où finalement ils n'étaient pas utilisés vraiment ?
Oui, a priori, les masques ne servaient pas forcément plus d'une fois, ça dépendait des rituels. Et ces masques étaient aussi utilisés à des fins de protection des maisons. Et parfois, ils étaient cassés en deux intentionnellement et positionnés à différents endroits de la maison pour en protéger les occupants.
On a parlé de la période d'occupation de ce site de Nunalek, 100 000 objets, j'imagine qu'on ne les fabrique pas quand même en une semaine. Alors on a parlé de 3 siècles globalement d'occupation. Qu'est-ce qui met fin et quelles traces archéologiques on a de la fin et de l'abandon de ce site de Nunalek en Alaska par les Yupites ?
Pour la phase la plus récente, cette fin d'occupation, elle est très facile à voir dans la tourbe, tout simplement parce que c'est une couche de tourbe rubéfiée et de cendres qui correspond à l'incendie des habitations. Cet incendie, il correspond justement à l'avènement de ces guerres de l'arc et de la flèche qui ont poussé les occupants à sortir des maisons pour se faire attaquer par les ennemis. Et les survivants se sont ensuite déplacés et ont abandonné le site.
Est-ce qu'on a des vestiges humains, des fossiles humains ou bien pas ?
On en a très peu, et la plupart du temps, c'est vraiment ce que nous, on redoute un petit peu de trouver, parce que c'est toujours des sujets sensibles avec ces communautés. On n'a jamais retrouvé de sépultures, la plupart du temps, c'est des restes isolés, des restes qui ne sont pas brûlés. L'objectif, c'était pas d'incinérer ni d'incendier les populations, c'était de les faire sortir, de les enfumer finalement, et de les faire sortir pour pouvoir les tuer. Et donc ces restes humains, quand on les trouve, on en prend soin, on les met au frigo le temps de la campagne et ensuite il y a des cérémonies pour les réenterrer qui sont menées par les gens du village.
Vous parliez de ces conflits, de ces guerres des arcs et des flèches. Quelles sont les raisons de ces conflits et comment on peut accéder à la fois aux raisons de ces guerres mais aussi à l'identité de ces participants ou des groupes de participants quand on n'a pas de tradition écrite ?
C'est la tradition orale qui nous donne les informations.
Encore aujourd'hui.
Et il y a deux variantes finalement. Et d'après les récits qui ont été rapportés, notamment au moment justement où commençaient à s'établir les lois pour les droits de ces populations natives, qu'on appelle Hangsa. Il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits dans les villages sur des cassettes audio. Et dans ces enregistrements, il y a souvent deux versions qui ressortent. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une version qui est plutôt maritime et une version qui est plutôt terrestre. Et donc, celle qui est souvent évoquée pour les populations que nous on rencontre et qui prévaut à Quinnox, c'est celle d'un jeu entre deux enfants qui aurait mal fini. Et l'un des enfants, en s'exerçant au tir, aurait aveuglé. Ou éborgné plutôt, avant de l'aveugler, son copain, et les parents en seraient venus aux mains, et ensuite les villages, et ensuite toute la région.
Ça aurait fait un effet boule de neige, et donc Exactement. Ça aurait donné lieu à ces conflits particulièrement violents. Alors là, on se concentre, Claire Oumar, sur ce site de Nunalek, mais on imagine que dans la région, il y a encore plein d'autres sites qui restent à explorer. Quels autres sites ont été explorés par des archéologues? Comment on peut introduire finalement Nunalek dans cette carte de cette région de l'Alaska, dans une ramification? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont directement liés à celui-ci?
Il en existe très probablement, mais qui n'ont pas été fouillés. Et donc là, l'objectif aussi du prochain projet, c'est d'essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on est rentré en contact avec un nouveau village qui est tout à fait intéressé par notre expertise et qui aimerait qu'on arrive à faire un nouveau projet Nunalek, mais dans leur village à eux. Et maintenant, il nous reste à trouver des subventions pour arriver à financer tout
ça. Ce site, c'est le site de Chivac, c'est ça?
Non, le village, c'est le village de Chivac. D'accord. Et c'est le site de Kavinak.
Parce que là, on évoquait cette rapidité, cette archéologie de l'urgence, finalement, le réchauffement climatique, ça menace actuellement les populations qui habitent sur ces côtes de l'Alaska. Il y a des villages entiers qui vont devoir être déplacés après les guerres, finalement, qu'on a abordées. La colonisation, bien sûr, il y a une menace d'un autre genre qui plane aujourd'hui sur cette culture Yupik. Comment elle se manifeste, cette menace climatique, sur ces vestiges? Quel effet direct elle va avoir?
Sur les vestiges en eux-mêmes, c'est l'érosion qui est la plus prégnante. L'érosion et puis la fonte du pergélisol, donc ce sol qui est gelé en permanence, qui fait que les matières les plus fragiles vont disparaître d'elles-mêmes. Et ensuite, l'érosion qui a cet effet mécanique immédiat. À Nunalek, on a perdu 5 à 10 mètres de côte en même pas 10 ans, si je me souviens bien. À Kavinak, d'après les plans qui ont été faits en 2001, il y a déjà 3 maisons qui auraient disparu. Donc l'urgence est là.
Cette urgence, elle est là et elle implique du coup un investissement des populations, on le disait tout à l'heure, locales, dans ces travaux de préservation, de défense. C'est quelque chose de capital, on l'a compris dans notre discussion, Claire Oumar. Quel rôle jouent justement ces populations et comment on leur rend ce passé-là qui remonte au sol, remonte à la surface, pardon.
Je dirais que c'est un peu une exception quand même, ce projet Nunalek, et c'est vraiment l'initiative de Rick d'avoir voulu laisser le patrimoine culturel de Nunalek accessible aux habitants de Quinnox. Et c'est vrai que les villages alentours y sont sensibles, et maintenant, ça serait difficile de faire autrement, et ça ne serait pas souhaitable de faire autrement. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est loin de tout, c'est des infrastructures qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, même pour les villageois. Par exemple, à Quinnox, c'est le gouvernement qui vient construire les maisons, il en construit 2 par an. Il y a une vraie pression sur la population d'un point de vue démographique. Mais la vitesse est celle du gouvernement et pas celle du village, et les subventions sont celles du gouvernement et de moins en moins importantes.
Là, on parle d'un gouvernement en Alaska. Voilà, l'Alaska, ça fait partie des États-Unis. On imagine que dans les États-Unis de Trump, ce genre de projet d'archéologie qui parle finalement des populations autochtones n'est pas forcément simple à mener, ou en tout cas n'est pas forcément une priorité.
En tout cas, on avait peur de ne pas pouvoir accéder au tout simplement au site cet été. On a pu voyager sans difficulté, mais c'est vrai que maintenant, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, il y a des façons d'aller chercher les sous qui sont différentes. Après, nous, en tant qu'Européens, ce qui nous sauve, c'est qu'on n'est pas dépendant de ces financements américains. Mais ça nous a impacté de toute façon aussi pour Quinoc, parce que les chambres qu'on occupait sont maintenant occupées par des pêcheurs sportifs. Donc on n'a plus de moyens de logement à Quinoc, et c'est pour ça qu'on a voulu se déporter sur un nouveau village.
Est-ce que vous avez du coup déjà un calendrier de fouilles à venir, des projets qui sont construits? Bien sûr, vous le disiez, en attente de financement, mais quelles sont les perspectives de fouilles que vous avez en tête?
Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est faire la même chose qu'à Nunalek, à Chivac, parce que la population est demandeuse, parce que les sites sont importants et qu'on est a priori à l'épicentre de ces guerres de l'arc et de la flèche, et que justement, ce serait un bon moyen de pouvoir trouver des points de comparaison avec Nunalek et de pouvoir justement aussi avoir une idée de la façon dont les hommes et les objets circulaient entre les différents villages, de voir quel jeu d'alliance il pouvait y avoir et comment ces régions-là finalement étaient parcourues par ces populations, à la fois en saison hivernale et en saison estivale.
Sur ces 100 000 objets là qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette collection incroyable de vestiges matériels de la culture Yupik, quelle valorisation est envisagée, puisqu'on on l'a compris, c'est une valorisation locale? Comment sont-ils présentés à la population?
Alors, ce qu'on essaie, nous, toujours de faire, c'est des restitutions à la population à la fin des fouilles, et de les impliquer pendant la fouille et après la fouille, à différents niveaux, de faire des ateliers aussi avec eux. Ça, c'est ce qu'a beaucoup développé l'université d'Aberdeen et d'autres collègues. Et puis aussi de leur rendre notre savoir à partir des analyses qu'on fait. De leur permettre finalement d'avoir aussi une image de cette vie quotidienne qui, a priori, ne transparaît pas dans la tradition orale. Et ça, c'est le gros atout de l'archéologie par rapport à cette tradition orale qui, finalement, ne garde que les événements les plus marquants.
Est-ce que ça crée chez eux un intérêt, une surprise d'accéder justement à cette vie quotidienne qui n'est pas, qui est exclue de la tradition orale, puisqu'on pourrait se dire, bah, finalement, c'est quelque chose d'assez anecdotique? Ou bien est-ce que il y a tout d'un coup quelque chose de nouveau qui se crée?
Il y a différents types de réactions. Il y en a qui ne sont pas contents qu'on aille réveiller les morts, finalement. Il y en a qui sont contents qu'on mette en avant leur patrimoine, à la fois au niveau du village, mais aussi à l'extérieur du village. Et c'est une des raisons pour lesquelles Charlotte Fauve est venue, a mis en lumière ces populations et l'origine du livre qu'on a publié. Et puis, ce qu'on aimerait, nous, maintenant, c'est développer aussi des expositions itinérantes, à la fois en Alaska, pour leur montrer aussi, finalement, ces peuples blancs, qu'il y a des peuples natifs qui avaient une vraie technologie, un vrai mode de vie et une identité propre qui est vouée à disparaître si on ne fait rien. Et puis nous, du côté européen aussi, les mettre en lumière parce qu'elles sont quasiment inconnues.
Mmh. Et on parlait tout à l'heure de ces pratiques chamaniques qui ont disparu aussi avec l'interdiction de ces pratiques-là par les missionnaires occidentaux notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont à nouveau ressuscitées par ce genre de découverte, ou bien est-ce que ce sont des traditions qui ne se sont jamais totalement perdues?
On va dire qu'elles sont probablement restées en partie clandestines puisqu'elles arrivent de nouveau à réémerger. Mais c'est plutôt l'aspect danse et performance qui va ressortir plutôt que la cosmologie. Mmh. Il y a des éléments qui vont rester d'un point de vue cosmologique. Et c'est sûr que, par exemple, le site de Nunalek, pour eux, reste habité et pas seulement habité par des humains. Il est habité par toutes sortes d'autres âmes. Ça, c'est quelque chose qui est encore prégnant dans leur société. Mais le côté chamanique, je ne suis pas sûre qu'il reviendra vraiment, parce que, justement, on a tellement fait une chasse aux sorcières de ces chamans pour venir évangéliser ces coins-là que cette partie-là, elle ne va probablement pas complètement revenir.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Claire Oumard, d'être venue nous parler de vos recherches en terre Yupik. Je rappelle le titre de votre livre, Alaska, l'usure du monde. C'est paru aux éditions du Seuil et c'est co-signé avec Charlotte Fauve. Merci encore.
Merci beaucoup.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe et merci à nos partenaires, l'INRAP et l'INA.
Vous pouvez écouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.